Septembre 2024. Une nuit, dans le canton de Zurich. Un médecin sans histoire s'endort aux côtés de sa compagne. Peu après 3h30, les urgences reçoivent un appel. L'homme, paniqué, indique que sa compagne ne respire plus. Policiers et services de secours sont alors immédiatement dépêchés sur place et ne peuvent malheureusement que constater le décès de la femme. Sur la base des traces trouvées sur les lieux, la police arrête le compagnon en tant que suspect d'homicide. L'homme, lui, n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Alors que fait la justice face à une telle affaire ? L'article 19 du Code pénal suisse stipule que l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans notre histoire, rapportée par le Beobachter et traduite en français par le Média 20 minutes, en février 2026, l'homme n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Comment sa femme est-elle morte ? Pourquoi a-t-il été arrêté ? Que s'est-il passé ? Il s'est réveillé, a constaté le décès, fait venir les secours, et se retrouve ensuite menotté au poignet, présumé coupable. Comment est-ce possible ? Est-ce qu'il ment ? A-t-il réellement tué sa femme ? Et si oui, était-il conscient de son acte ? Ou est-ce que l'article 19 du Code pénal pourrait peut-être lui éviter la casse-prison ? Vous écoutez l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Face à une telle affaire, la justice a recours à l'expertise d'une discipline peu connue, à la frontière du droit et de la médecine, la psychiatrie forensique. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre comment est-ce que les experts déterminent si une personne est responsable ou non de son crime.
C'est quand même passablement plus confortable et agréable de faire de la psychothérapie en cabinet plutôt que d'aller se confronter à des gens violents, des meurtriers, des assassins, des violeurs d'enfants, que sais-je.
Lui, c'est Philippe Delacroza, psychiatre, psychothérapeute et directeur de l'Institut de psychiatrie légale au département de psychiatrie du CHUV. Mais aussi professeur associé ad personam à la faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL. Son rôle ? Éclairer la justice sur l'état mental d'un accusé.
Mon métier, c'est effectivement d'être médecin psychiatre. En Suisse, on a cette particularité, quand on est psychiatre, d'avoir un double titre. On est psychiatre et psychothérapeute. On se forme dans les deux domaines. Et donc, la pratique de la psychiatrie, c'est à la fois l'usage des médicaments, mais aussi la pratique de la psychothérapie. Et puis, il existe depuis maintenant quelques années certaines sortes de sous-spécialisations. On appelle ça des formations approfondies, dont une qui est la psychiatrie et psychothérapie forensique, qui est au fond un d'activités très spécialisées qui se traitent au fond des questions de psychiatrie qui sont en lien avec des questions de justice. Et ça comprend d'une part toutes les expertises qui sont réalisées à la demande des autorités judiciaires, tant dans le champ pénal que dans le champ civil, mais aussi des thérapies spécifiques lorsque ces thérapies sont ordonnées par des justices, en particulier la justice pénale, dans le cadre de mandats thérapeutiques imposés. Les expertises dans le champ pénal, elles sont demandées lorsque on a un doute, par exemple, sur au fond la responsabilité pénale de la personne au moment où elle commet son acte. Est-ce que elle présentait des troubles? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans son fonctionnement psychique qui aurait pu avoir un impact au fond sur la commission de cet acte qui est reproché? Et l'expert psychiatre doit évaluer cette question-là de la responsabilité. Il y a deux composantes qui sont importantes à évaluer. C'est est-ce que la personne était en capacité de comprendre que son acte était illicite, qu'elle n'avait pas le droit de faire cet acte, etc. Et quelle était sa volonté, au fond ? Est-ce qu'il y avait des processus psychopathologiques qui sont venus, au fond, interférer ou altérer cette volonté ? Ça, c'est une des questions dans le champ pénal. Une autre question qui est très importante au jour d'aujourd'hui, c'est la question du risque de récidive. Est-ce que cette personne est à risque, du fait de son trouble psychique ou d'autres raisons, est-ce que cette personne est à risque de commettre de nouveaux actes à l'avenir ? Et est-ce que, notamment, il y aurait des mesures judiciaires qui pourraient être ordonnées pour prévenir ce risque de récidive ? C'est tout le champ de ce qu'on appelle les mesures pénales prévues par le Code pénal. La psychiatrie forensique, elle a un champ, en tout cas pour ce qui est de son apport à l'enquête ou au processus judiciaire, elle a un champ qui est très délimité. Le psychiatre ne participe pas du tout à l'établissement des faits, ne participe pas à la conduite de l'enquête, ne cherche pas à déterminer la vérité, hein, ne cherche pas à savoir qui a fait quoi exactement, à quel moment, c'est pas du tout son rôle. Ça, c'est vraiment le rôle de la police, avec effectivement des spécialisations au sein de la police, hein, avec des aspects plus de police scientifique, enfin, c'est plus la conduite de l'enquête, mais la psychiatrie forensique ne traite pas de cette dimension-là.
Le psychiatre forensique n'intervient pas uniquement dans les affaires pénales. On peut aussi faire appel à lui dans des décisions civiles, une mise sous curatelle, une évaluation de la capacité de discernement, ou encore des situations liées à l'assistance au suicide. Mais ici, nous allons nous concentrer sur le pénal, parce que c'est là que la question de la responsabilité prend toute sa force. Ces experts ne sont pas sollicités systématiquement. Leur intervention répond toujours à une interrogation précise de la justice, un doute, une zone grise.
Au pénal, ce sera ce qu'on appelle la direction de la procédure qui va mandater l'expertise formellement. La direction de la procédure, quand on est avant le jugement, eh bien c'est le ou la procureure qui est en charge, au fond, de conduire l'enquête, toutes les investigations. Et c'est le procureur qui va mandater l'expertise, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties. Hein, le prévenu peut demander, lui, par le biais de son avocat, à ce qu'une expertise soit diligentée. Parfois, ça peut aussi être les avocats des victimes qui peuvent demander, mais au final, c'est la direction de la procédure qui va ordonner cette expertise.
Un viol, un meurtre, une agression incompréhensible. Face à ces actes, une question revient souvent. Qu'est-ce qui a pu pousser une personne, un humain, à commettre un tel acte? Pour répondre à ces questions, les psychiatres mènent leurs propres investigations. Leur but, reconstruire pièce par pièce l'état mental de la personne au moment des faits. Mais concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour analyser la responsabilité d'une personne ?
Alors la pratique que nous avons à l'Institut de psychiatrie légale, qui est hébergé au sein du département de psychiatrie du CHUV hein, et que, dont j'ai la responsabilité, la pratique que nous avons, c'est de toujours faire les expertises à deux. On ne fait jamais une expertise seule. On travaille toujours sous forme d'intervision, d'une certaine manière. Donc on va avoir des entretiens avec la personne accusée. Pas tous les entretiens vont se faire à deux, mais il y aura en tout cas un des entretiens où les deux experts sont présents. Mais on va aussi se baser sur les éléments du dossier pénal. Les procès-verbaux d'audition, par exemple, ben, des témoins, des victimes, bien entendu aussi de la personne prévenue. On va aussi se baser sur des éléments du dossier médical de la personne. Parfois, un médecin a pu être appelé par les policiers pour évaluer la personne juste après les faits, s'il y avait une suspicion de quelque chose. Il y a peut-être une prise de sang qui aura été faite à la recherche d'éventuelles consommations de substances qui ont pu peut-être participer aussi à l'état de la personne. Donc on va vraiment aller à la recherche de toute une série d'indices qui nous permettent au fond d'essayer d'évaluer justement si cette personne présentait au fond des troubles psychiques, hein, des symptômes psychopathologiques au moment où elle a commis son acte, et puis dans quelle mesure est-ce que ces symptômes psychopathologiques ont pu jouer un rôle dans le passage à l'acte. Est-ce que la personne présente, je ne sais pas, des hallucinations, par exemple, ou est-ce qu'il y a des idées délirantes qu'on peut mettre en évidence, ou est-ce qu'il y a des problèmes liés à une dépression? Enfin, donc, il y a toutes sortes de questions qu'on va pouvoir poser pour aboutir à un diagnostic, le cas échéant. Mais on va s'intéresser plus largement à qui est cette personne, au fond, quel a été son parcours. Donc on va retracer toute l'existence, en fait, de la personne, depuis la grossesse, au fond, jusqu'à aujourd'hui, en explorant l'ensemble des différentes sphères de la vie de la personne, que ce soit sur le plan amical, sur le plan affectif, sur le plan scolaire, puis professionnel, enfin, tous les différents champs, pour aussi essayer de comprendre l'acte qui est reproché à la personne, comment est-ce qu'il s'inscrit dans la trajectoire de vie de cette personne, est-ce qu'elle a des antécédents, à la fois psychiatriques ou des antécédents judiciaires, ou est-ce que c'est une toute première fois qu'il arrive un acte comme celui-là? Donc, on va prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là. On va aussi s'intéresser, évidemment, au positionnement de la personne par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui, elle, de toute cette procédure? Comment elle se positionne? Et là, tous les cas de figure existent. Vous avez des personnes qui vont nier complètement les faits, d'autres qui vont admettre les faits qui sont reprochés, mais seulement de façon tout à fait partielle. D'autres personnes qui vont les admettre totalement. Vous avez parfois des gens qui vont s'accuser de choses qu'ils n'ont pas commises par ailleurs. Donc, tous les cas de figure existent. Mais encore une fois, le rôle du psychiatre n'est pas de déterminer la vérité par rapport à ça, mais de récolter, au fond, ces informations et puis aussi comment la personne se représente les choses. Hein, quelle est la représentation aussi du monde, comment la personne se voit dans le monde, se voit dans le cadre de cette procédure. Et on va s'intéresser et explorer toutes ces dimensions-là. La majorité des actes de violence ne sont pas le fait de personnes qui ont des maladies mentales, en réalité. On a une représentation qui est l'exact opposé, en réalité. On associe complètement l'idée, justement, de la folie, de la maladie mentale, à l'idée de la violence, alors qu'énormément d'études épidémiologiques qui ont été faites pour faire ce lien, justement, entre trouble mental et violence, qui montrent qu'en réalité, les patients psychiatriques, les gens qui présentent des pathologies psychiatriques, c'est une toute petite minorité qui peuvent être amenés à commettre des actes de violence en lien avec leur pathologie. C'est une toute petite minorité. L'immense majorité des patients psychiatriques ne commettent jamais d'actes de violence. Ils ont plutôt un risque d'être davantage victime de violence, mais ça, c'est une autre question. Mais on a cette représentation, finalement, d'un lien fort entre les deux, mais ce qui n'est pas du tout le cas.
Mais qu'est-ce qui peut pousser à commettre l'irréparable ?
Ce serait évidemment très long de vous faire un cours complet sur les mécanismes de passage à l'acte violent. Peut-être la première chose à dire, c'est que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Mais en réalité, chacun d'entre nous est capable du meilleur comme du pire. Chacun d'entre nous est capable de commettre des actes de violence. C'est souvent une question de circonstances. Dans les faits, seule une toute petite minorité d'entre nous sera amenée effectivement, réellement, concrètement, dans la réalité, à commettre des actes de violence. Mais notre rapport à la violence, il est quotidien. Si ce n'était pas le cas, notamment notre rapport à la fascination par rapport à la violence, par exemple, il est quotidien, mais on va le vivre par des moyens qu'on pourrait appeler de sublimation ou différents mécanismes. Typiquement, s'il n'y avait pas cette fascination pour la violence, je ne sais pas quel pourcentage, mais un pourcentage très important des séries télé n'existerait tout simplement pas. La fascination qu'on a pour les meurtriers en série, les séries comme Game of Thrones, etc., n'existerait pas s'il n'y avait pas, au fond, toute cette fascination pour la violence. Alors, c'est une chose d'être dans le fantasme, vous allez me dire, c'en est une autre, de passer à l'acte concrètement. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a tous effectivement la capacité de commettre des actes épouvantables, qu'est-ce qui fait que on a plein de freins, de mécanismes qui nous contiennent, qui nous retiennent de passer un acte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, chez tel ou tel individu, l'un ou l'autre ou plusieurs de ces freins n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que le passage à l'acte est quand même survenu, sachant que ça pourrait nous arriver à tous. Un facteur le plus fréquent, au fond le plus banal, si j'ose dire, c'est simplement l'alcool. Lorsqu'on a consommé de l'alcool, on présente un état de désinhibition, on commence à faire des choses que d'habitude on ne fait pas, parce que la décence ou toutes sortes de choses, on a peur du ridicule, en général ce sera plutôt des trucs assez amusants, non ? Mais pour peu qu'on soit en colère, par exemple, cette colère, elle va s'exprimer plus directement par un passage à l'acte violent, par exemple, etc. Donc c'est la question au fond de quels sont les différents freins qui nous contiennent, et qu'est-ce qui fait que ces freins, à un moment donné, n'ont pas fonctionné dans telle ou telle situation. Il y a au fond toutes les situations dans lesquelles on va être en état de vulnérabilité d'une certaine manière. Très souvent, au fond, les passages à l'acte surviennent dans des situations de vulnérabilité de la personne. Alors vous avez des personnes qui sont plus ou moins vulnérable. Mais cette vulnérabilité, elle n'est pas synonyme de maladie mentale ou de trouble psychique. On est tous plus ou moins vulnérables. Ça dépend de tellement de facteurs. Pour certains, il y a des gens qui sont du matin, puis d'autres qui sont plutôt du soir. Non, quand on est plutôt du soir, le matin, on est plus vulnérable. Non, et puis, on n'est pas au meilleur de sa forme. Et puis, je sais pas quoi. On aura plus facilement tendance, suivant comment, à s'énerver s'il y a quelque chose qui vient nous contrarier, etc. On va avoir moins de capacité à se contenir, à pouvoir inhiber les choses désagréables, etc. Donc, on peut trouver un million d'exemples de la vie de tous les jours, ne serait-ce que dans nos relations, où, en l'occurrence, la violence sera beaucoup plus une violence, au fond, psychologique ou une violence verbale. Puis après, on regrette et puis on dit « Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. » Ouais, en attendant, c'est ce que tu as dit. Non. On fait tous cette expérience-là, puis les moments où on s'emporte et puis on dit « Ça a dépassé ma pensée. » En réalité, ça n'a pas dépassé la pensée. C'est juste que d'habitude, ces pensées, on les a plutôt contenues et puis là, tout à coup, quelque chose a fait qu'on n'a pas réussi à les contenir. Alors, toute la question, effectivement, c'est est-ce que c'est un débordement verbal ? Est-ce que ça devient un débordement comportemental ? C'est toute la question du continuum, justement, entre la vie de tous les jours, le normal, et puis le pathologique.
Comprendre quelqu'un, ça ne se fait bien sûr pas en une heure. Encore moins quand cette personne est accusée d'un crime. Cela suppose du temps, des rencontres, des récits parfois contradictoires. Une immersion progressive dans une histoire de vie.
En moyenne, on a 3 à 4 entretiens avec la personne, 3 à 4 entretiens d'une heure à deux heures à chaque fois. Parfois, ça nécessite d'avoir plus d'entretiens, mais habituellement, on est plutôt à 3 ou 4, quelque chose comme ça. Je pense que notamment faire une expertise pénale sur la base d'un seul entretien, c'est certainement pas suffisant. Rencontrer une personne à plusieurs reprises, ça permet aussi de le voir à différents moments. Et puis, on a tous nos bons jours et nos moins bons jours, etc. Et notamment pour pouvoir récolter suffisamment de renseignements à la fois sur l'existence de la personne, pour faire cette évaluation de la psychopathologie, toute cette investigation. Ça prend du temps de pouvoir faire ça, donc on le fait de cette manière-là.
Mais à la fin de ce processus, il faut trancher. Mettre des mots sur ce que l'on a compris, interprété, décelé. Mais alors, comment passe-t-on de ces heures d'entretien à un avis structuré, capable d'influencer une décision de justice ?
Une fois qu'on a fait tout ce travail d'investigation, etc., ben, il faut en rendre compte. Puis la manière d'en rendre compte, c'est au travers d'un rapport d'expertise. C'est un texte qu'on va écrire, qui fait des dizaines de pages. Et il s'agit de pouvoir être en capacité de structurer tout le raisonnement qui nous a permis, ou qui permet de comprendre enfin, comment on en arrive à dire ce qu'on dit. Et ce travail-là, c'est un travail qui est très difficile, qui est très exigeant sur le plan intellectuel, finalement, où il faut parfois pondérer chaque mot, sachant que eh bien, chacun de ces mots peut être repris à un moment ou à un autre. Et puis, quand ensuite, il faut aller défendre son rapport d'expertise en audience, eh bien, les choses peuvent être parfois un peu difficiles. C'est un autre aspect de la difficulté du métier qui peut parfois paraître assez redoutable à certains jeunes collègues. C'est aller, si vous me passez l'expression, se faire astiquer au tribunal, puisque forcément, que chaque partie a des intérêts divergents. Donc, une expertise peut convenir à une partie, pas convenir à l'autre partie. Et du coup, ce sera le jeu de est-ce que l'une ou l'autre des parties va arriver à discréditer ou disqualifier cette expertise-là, etc. Donc, les moments en audience peuvent effectivement être parfois assez difficiles et où l'expert est un peu comme écartelé entre des besoins contradictoires, finalement.
Dans un domaine aussi complexe, où l'on parle d'humain, de psyché, de comportement, peut-on vraiment tout objectiver ? Ou y a-t-il toujours une part d'interprétation, d'intuition ?
Alors, l'intuition, on évite. J'ai coutume de dire qu'en fait, l'intuition n'existe pas en tant que telle, mais correspond plutôt à quelque chose de l'ordre, en fait, d'observation non conscientisée. C'est-à-dire, je pense qu'on a en réalité, quand on a une intuition de quelque chose, ah, je le sens comme ça. En général, c'est qu'on a observé quelque chose, mais on n'a pas pris conscience du fait qu'on avait observé cette chose-là, non ? Quand on regarde, eh ben on fixe notre regard sur une chose. Mais en fait, notre champ de vision, il est beaucoup plus large. Mais on ne fait pas attention à tout ce qui nous entoure, mais on l'a vu en même temps. Et parfois, on capte des choses, mais on n'a pas pris conscience qu'on les avait captées, mais elles sont quand même quelque part là. Et tout le travail consiste à essayer, en fait, de précisément de conscientiser ces éléments d'observation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une intuition, ben, il s'agit de déconstruire cette chose-là et de retrouver qu'est-ce qui nous a amené à avoir cette idée ou cette pensée ou cette impression-là. C'est aussi dans ce sens-là que le travail à deux est extrêmement utile. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois, poser cette question-là. Mais au fond, tu te bases sur quoi pour dire ça ? Parce que, après, c'est effectivement des questions qui vont nous être posées. Et puis, ben, évidemment que les juges peuvent demander aussi des expertises dans toutes sortes d'autres domaines. On peut s'imaginer qu'il y a des domaines dans lesquels les aspects techniques sont assez évidents, non ? Des aspects balistiques, par exemple. Ben voilà, trajectoire d'une balle suit des règles physiques, enfin, etc. Bon, la psychiatrie paraît assez vite moins rigoureuse, ou en tout cas avec des méthodologies peut-être moins claires. Donc il est d'autant plus important de pouvoir être en capacité de rendre compte d'une méthodologie. Une des phrases classiques que certains avocats posent à l'expert en audience, histoire de le mettre un peu mal à l'aise, c'est « Mais au fond, docteur, la psychiatrie, c'est une science ou c'est un art ? » Sous-entendu, évidemment, un art, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc si on vient avec des notions de type « j'ai eu l'intuition que », ça alimente plutôt une impression effectivement d'un manque de méthodologie. Or, ce qui est extrêmement important dans le cadre des expertises, c'est de pouvoir rendre compte précisément de la méthodologie avec laquelle on fait nos investigations.
Car au bout du compte, ce travail ne reste pas théorique. Il atterrit sur le bureau d'un juge. Mais alors au fond, au milieu de toute la procédure judiciaire, quel sera le poids concret de l'expertise psychiatrique ?
Dans les faits, un juge, le tribunal, n'est jamais lié par les conclusions de l'expertise. Le juge peut toujours s'écarter au fond de l'expertise, mais dans les faits, c'est pas si facile pour le juge de s'écarter. Parce que finalement, si un expert a été mandaté, c'est précisément parce qu'il a des compétences dans un domaine particulier que les autorités judiciaires n'ont pas. Et donc, pour critiquer finalement ou s'écarter, il faut avoir des bons arguments, ce qui n'est pas forcément si facile. Alors, si l'expertise pose des problèmes internes, par exemple, il y a des incohérences ou certains éléments de fait n'ont pas été pris en compte suffisamment, etc., eh bien là, ça peut être plus facile de s'en écarter. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours simple de s'en écarter, mais formellement, il y a toujours la possibilité. Il faut pour cela que le juge puisse vraiment documenter et rendre compte des raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise.
Derrière chaque rapport, il y a une conséquence possible, une peine, une mesure thérapeutique, ou parfois une absence de sanction. Face à de tels enjeux, une question devient inévitable. Et si l'expert se trompe ?
Se tromper, il faut s'entendre sur se tromper, c'est-à-dire que quand on évalue par exemple un risque ou un risque de récidive, puis qu'on considère par exemple qu'un risque de récidive est faible, le risque de récidive faible, ça veut dire que c'est quand même possible que quelque chose survienne. Mais si on a dit qu'il était faible et puis que la personne récidive, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça veut juste dire qu'on était dans une probabilité moindre que ça arrive, mais c'est quand même arrivé. Mais par définition, une probabilité peut arriver. Donc il faut s'entendre sur ce qu'on appelle se tromper. On peut se tromper parce qu'on a mal évalué les choses et puis qu'on a posé un mauvais diagnostic par exemple, ce qui peut évidemment arriver, où on a mal compris quelque chose qui nous a été dit, ou bien on a été confronté au fait que la personne nous a menti de façon éhontée et puis on n'a pas les moyens de déterminer non plus, hein, si quelqu'un dit la vérité ou le mensonge, puis on n'est pas là pour ça non plus. Donc il faut pouvoir s'entendre sur ce qu'on appelle se tromper, mais que certaines investigations qu'on ait pu faire se soient avérées par la suite discutables comme ça, ça me paraît assez naturel, parce qu'au fond, dans le champ de la médecine, il n'y a jamais de 100% de garantie des investigations. Encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est comment on peut rendre compte de ce qu'on dit. Puis je pense qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on peut être plus ou moins affirmatif, c'est-à-dire plus on a un certain nombre d'informations et de qualité, meilleure sera au fond la confiance avec laquelle on peut affirmer un certain nombre de choses. Si on a très peu d'informations, ben, on doit avoir l'honnêteté de dire qu'on a peu d'informations et donc on ne peut pas affirmer des choses, mais il y a au fond une marge d'incertitude qui sera plus grande. Et je pense que ce qui est vraiment très important, c'est que l'expert soit en capacité justement d'évaluer la pertinence, la validité des informations qu'il a pu récolter pour se positionner en fonction de ça. Le risque, c'est au fond, lorsqu'on est catapulté comme expert, c'est qu'au fond, il y a une espèce d'attente sociale. L'expert, c'est par définition celui qui sait. Et le risque, c'est évidemment d'arriver avec une posture de type « écoutez-moi, je sais parce que je suis l'expert ». Ça, c'est évidemment extrêmement problématique et c'est en réalité pas ça qui est attendu de la justice. Ce qui est attendu de la justice, c'est réellement qu'on soit en capacité d'expliciter comment on en est arrivé, aux conclusions auxquelles on est arrivé. Puis après, ben, la justice décide effectivement ce qu'elle veut faire de ces conclusions-là.
Mais évaluer la responsabilité d'un individu, ce n'est pas seulement une question scientifique. En filigrane, il y a aussi une responsabilité humaine, sociale, un pouvoir qui peut parfois se révéler un peu vertigineux.
D'avoir cette grosse responsabilité, c'est en effet une réalité importante qui a une conséquence non négligeable, notamment dans le fait qu'il est très difficile d'encourager, au fond, des plus jeunes collègues à se lancer dans cette activité. Il y a la question de la responsabilité, puis il y a aussi le fait que ben, lorsqu'on fait une expertise, on n'est pas en train de faire une thérapie, on n'est pas là pour soigner la personne. Or, ben, si on a fait médecine puis psychiatrie, a priori, c'est pour soigner les gens, c'est pour aider à alléger des souffrances, venir en aide à des gens qui en ont besoin. Là, en l'occurrence, on n'est pas dans un cadre comme celui-là. On est là pour renseigner la justice. On est là dans une fonction, au fond, d'auxiliaire judiciaire avec, effectivement, une responsabilité importante. Donc, on est assez loin, au fond, de tout ce qu'ont pu être les motivations pour lesquelles on a fait la médecine, la psychiatrie, etc. Donc, il est difficile de trouver des collègues qui s'investissent et qui s'intéressent, effectivement, à ce champ-là. Et c'est vrai que les responsabilités sociales qu'on porte à l'heure actuelle sont importantes, en particulier sur cette question de l'évaluation de la récidive et puis de l'évaluation des risques, hein, que les personnes présentent. On est dans un moment social, finalement, de grands questionnements, hein, sur ces questions de gestion, au fond, des risques criminels et puis d'évaluation de ces risques-là. Donc, c'est bien entendu une question qui est importante. Une des façons d'y répondre, c'est de ne pas faire les expertises seules, mais de justement travailler à deux. Ça permet aussi d'échanger, ça permet de porter à deux cette responsabilité-là. Je pense que le fait d'avoir des institutions, malgré tout, comme l'Institut de psychiatrie légale, qui héberge cette activité, ça permet de travailler plus largement, enfin en équipe, c'est-à-dire de pouvoir aussi échanger avec des collègues, enfin ne pas être seul finalement à porter ce poids-là.
Au-delà des rapports et des tribunaux, il y a aussi ce que les psychiatres forensiques voient, entendent, absorbent au quotidien. Une plongée au cœur de ce que la psyché humaine a de plus sombre et de plus noir à offrir.
On rencontre des gens qui sont accusés d'avoir commis des choses d'une grande violence et il faut pouvoir accueillir au fond tout ça, tout en sachant se protéger mais sans se blinder. Non, il faut pouvoir être en capacité de quand même aller à la rencontre des gens, de pouvoir être disponible pour cette rencontre. Malgré les aspects effectivement parfois extrêmement violents auxquels on peut être confronté. La confrontation à la violence, comment on le gère et comment ça s'apprend, c'est un très vaste sujet, c'est quelque chose qui est effectivement difficile. La première des choses, c'est effectivement d'essayer de ne pas garder les choses pour soi, mais vraiment de pouvoir ventiler les choses ou les métaboliser, comme je le dis parfois. Et ça, c'est vraiment au travers de l'échange, au travers de la possibilité de verbaliser les choses, de pouvoir laisser s'exprimer les choses qu'on ressent. On ressent forcément beaucoup, beaucoup de choses hein, face aux gens auxquels on est confronté. Ça peut être autant des choses négatives, hein, du dégoût, de l'horreur, etc. Mais parfois, c'est aussi des choses d'un autre registre, hein, de la compassion, de la fascination même parfois, de la pitié. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, il y a déjà le fait de pouvoir apprendre à reconnaître ça, s'autoriser à pouvoir éprouver des choses, indépendamment des questions morales qui peuvent nous habiter, mais pouvoir accepter de reconnaître ce qui se passe en nous sur le plan émotionnel, et puis faire en sorte que ces choses-là aussi n'altèrent pas notre jugement, mais permettre à ces choses d'exister, d'être métabolisées, et puis se protéger de ça. Je pense que les manières de se protéger de ça, c'est aussi d'avoir plein de choses positives et chouettes en dehors du travail, dans sa vie. Je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais acquis en tant que tel. C'est quelque chose par rapport à quoi on doit rester vigilant en permanence. Et puis, il y a aussi un effet d'accumulation, malgré tout. On parle parfois de traumatisme vicariant ou de traumatisation secondaire, hein, pour parler de ces aspects-là. C'est-à-dire, lorsqu'on est confronté à la violence, le risque, c'est effectivement le traumatisme psychique. Le traumatisme, c'est quand on est confronté à quelque chose qu'on ne va pas réussir, au fond, à métaboliser véritablement. On ne va pas réussir à dépasser cet événement-là. Et donc, il va continuer de nous impacter d'une manière ou d'une autre. Il y a des violences auxquelles on peut être confronté, mais qui vont nous impacter pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, eh bien, on va être capable de passer par-dessus et puis d'inscrire ça dans le déroulement de sa vie et puis continuer de vivre. Lorsqu'il y a un traumatisme, il y a quelque chose qui se brise d'une certaine manière, puis on reste crochet d'une certaine façon avec ce traumatisme-là. Alors, le traumatisme, ça peut être une fois un gros épisode, mais ça peut être parfois des micro-épisodes, mais qui se répètent. On est plutôt à risque de cela, c'est-à-dire d'être confronté à, au fond, des micro-épisodes de traumatisation qui se répètent avec un effet, au fond, d'usure. Alors ça, c'est ce qu'on observe aussi chez, non pour le coup, pas les jeunes collègues qu'on peine à attirer, mais chez des collègues plus expérimentés qui se fatiguent véritablement de cette activité en lien avec le poids que représente cette confrontation à la violence et qui, au bout d'un moment, on en marre et font autre chose. Une manière de présenter ça, c'est de se poser la question de comment rester vivant psychiquement, parce qu'au fond, il y a quelque chose d'un peu mortifère, si on peut le dire comme ça, à cette activité-là. Alors là aussi, je pense que la conscientisation de ces aspects-là, le fait d'être vigilant, d'être attentif, le fait de prendre soin les uns des autres autour de ces questions-là, de vraiment leur donner la part qu'elles méritent, au fond, dans notre activité, je pense que c'est un aspect qui est très important. C'est pas toujours si simple, hein, dans un monde qui est toujours plus poussé vers la performance, la rentabilité, la productivité. Enfin, ces choses-là nécessitent aussi de pouvoir y consacrer du temps, prendre soin de soi au sens large. C'est quelque chose qui est assez incompatible avec les exigences de productivité actuelles. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours si simples à faire comprendre, finalement, dans le monde dans lequel on est. Mais pour moi, il y a des enjeux très importants là autour.
Cette nuit-là, à Zurich, l'homme a tué en dormant. Somnambule. Pas responsable. Le verdict est tombé. La justice a tranché. Le Média 20 minutes rapporte que, sur la base des observations du psychiatre, le ministère public a conclu qu'il ne s'agit pas d'un homicide intentionnel et a donc classé la procédure. L'expertise a diagnostiqué un trouble comportemental en sommeil paradoxal chez le meurtrier. L'homme aurait ainsi étranglé sa partenaire en ayant perdu le sens de la réalité, sans conscience de l'illégalité de son acte et sans capacité de se maîtriser. l'homme, sentir alors avec pour seule peine le retrait de son autorisation d'exercer la médecine et l'obligation de payer les frais de procédure. Responsable ou pas responsable? Derrière ces mots, il n'y a jamais de réponse simple. La psychiatrie forensique ne dit pas le vrai ou le faux, elle ne condamne pas. Elle éclaire, elle nuance. Elle rappelle que juger un acte, c'est aussi parfois tenter de comprendre l'esprit qui l'a produit, sans s'arrêter uniquement aux conséquences. Ne pas juger un acte avec ce qu'on voit, mais chercher à comprendre le cœur de la personne et ses intentions au moment des faits. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Merci à Philippe Delacroza, psychiatre forensique et enseignant à l'Université de Lausanne, de nous avoir éclairés sur les rouages complexes de la responsabilité pénale et sur les défis de la psychiatrie forensique.